au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous recevons aujourd'hui Catherine Chalier. Catherine Chalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc philosophe, spécialiste du judaïsme, et vous venez d'écrire Le désir de conversion au seuil, où vous examinez au début les trois figures de conversion, la conversion philosophique, la conversion juive et la conversion chrétienne, et dans une autre partie, enfin dans la partie essentielle du livre, vous examinez un certain nombre de portraits de personnalités et d'intellectuels qui se sont d'une façon ou d'une autre convertis. Et donc, après avoir vu dans une émission précédente la conversion ou les différentes conversions ou les différentes étapes de la conversion d'Henri Bergson, je voudrais voir avec vous la conversion d'Étienne Soum. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous donner un petit portrait de cet Étienne Soum que nous avons finalement découverte relativement tard, parce que son journal essentiel, donc Une vie bouleversée, n'a été publié que dans les années 1980, alors que préalablement donc, ce journal restait encore caché.
Oui, donc Étienne Soum était une jeune juive hollandaise qui vivait à Amsterdam au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui était une étudiante, qui avait une vie sentimentale, importante et bouleversante.
Et agitée,
oui.
Elle aimait beaucoup les hommes mûrs.
Absolument. Et un goût intellectuel, un goût pour les fêtes. Et il y a donc la guerre qui commence et on assiste dans son journal à un itinéraire qui est un itinéraire d'une très grande profondeur à mon avis, où cette jeune femme, donc un peu sans souci finalement de la spiritualité apparemment dans les tout premières pages de son livre et surtout soucieuse par contre de ses complications psychologiques à elle-même et d'une famille elle-même marquée par des difficultés d'ordre psychologique. Un de ses frères le plus jeune qui était un grand musicien était aussi quelqu'un qui n'allait pas bien psychologiquement. Et donc, ce journal commence de cette façon-là, par raconter sa vie dans ce milieu juif, milieu tout à fait assimilé. Elle ne connaît pas grand-chose du judaïsme. Et puis, donc, comme on va le voir, je pense, un itinéraire qui va la conduire à une profondeur spirituelle assez inouïe.
Alors, le premier point sur lequel je voudrais insister avec vous, c'est celui de la sexualité. On a l'impression qu'effectivement, ses amours, la sexualité joue un rôle pour elle important dans la compréhension qu'elle a d'elle-même, dans l'approfondissement qu'elle a d'elle-même. On peut peut-être imaginer que ce rôle-là de l'amour physique, de l'amour pour des hommes plus âgés qu'elle et donc qui sont un peu ses mentors, est une première étape dans cette progressive approfondissement d'elle-même.
Oui, alors elle dit elle-même qu'elle a une sensualité très forte et l'amour au sens d'Eros compte beaucoup, mais donc, elle vit avec un homme plus âgé qu'elle-même, mais elle rencontre un autre homme, Speer, qui est un juif allemand exilé aux Pays-Bas pour fuir le nazisme, et qu'elle va voir d'abord dans une perspective de thérapie, parce qu'elle se sent un peu confuse dans sa vie psychologique et un peu égarée, justement, aussi, dans sa vie amoureuse. Et donc, c'est surtout ce Speer qui va jouer ce rôle de mentor, je ne pense pas.
Puis de gourou un peu aussi. Enfin,
oui.
Il a un rôle un peu comme ça, effectivement.
Oui, parce que ce n'est pas un thérapeute ordinaire. Il ne la soigne pas simplement par la parole. Il la soigne aussi. Ils ont des séances de gymnastique qui virent souvent en ébats amoureux. Et donc, il y a tout un rapport au corps qui est extrêmement, extrêmement profond et qui compte beaucoup. Mais en même temps, ce Speer, donc, qui essaie de la faire aller au plus loin, justement aussi, dans la connaissance de ce que signifie Eros, et Eros incarné donc, dans ce corps, ce même Speer est quelqu'un qui va l'inciter à lire des textes spirituels, la Bible en particulier, Augustin, d'autres textes, juifs et chrétiens, donc les deux, et progressivement aussi lui enseigner qu'il y a une possibilité, et ça c'est très profond à mon avis, de passer de Eros à Agapé, c'est-à-dire de passer de l'élan amoureux, qui peut ne pas être satisfait, qui peut souffrir, en amour qui soit un amour adressé à d'autres, à beaucoup de personnes, pour lesquelles, par ailleurs, on n'éprouve aucun élan émotionnel. Et ce passage d'Eros à Agapé me semble extrêmement intéressant.
Alors, la guerre, donc, intervient. Alors, elle est dans une position un peu particulière, parce que, donc, à la fois, elle est juive, et en même temps, donc, dans ce camp de Westerbork, elle est du côté du conseil juif, donc du côté de ceux qui entourent, accompagnent, cherchent à protéger, à accompagner autant que faire se peut, ceux qui sont dans ce camp de transit pour partir vers une destination inconnue en Pologne qui se révèle être effectivement les camps de la mort. Mais on n'a pas l'impression qu'elle a une claire conscience de ce destin.
Aussi, à la fin, elle a tout à fait la conscience, oui. Mais parce qu'elle n'est pas tout de suite dans ce camp de Westerbork. Son journal raconte d'abord, et c'est aussi intéressant, même d'un point de vue historique, comment l'étau se resserre de plus en plus sur les Juifs d'Amsterdam, donc les interdictions de se promener dans certains endroits, les interdictions de prendre les moyens de transport. Et là, on voit que déjà, elle débat en elle-même, et parce qu'elle voit qu'autour d'elle, ses amis réagissent souvent avec haine et avec violence. Et là, on a ce premier moment où elle se rend compte que ce n'est pas la bonne voie et qu'il s'agit aussi de veiller à ne pas être dans un rapport justement de violence mimétique, de haine mimétique par rapport aux Allemands, même si ça lui arrive d'éprouver de tels sentiments. Et donc, avant même d'aller dans ce camp de Westerbork dont vous parliez à l'instant, il y a un long travail où un travail sur elle-même, où elle apprend à s'examiner, à réfléchir à ce qu'elle ressent. Et je dirais deux choses par rapport à ce travail. Comment ce travail sur elle-même lui donne d'une part la possibilité de continuer à percevoir ce qui reste beau dans le monde. Alors, ce qui reste beau dans le monde, c'est bien sûr pas l'histoire. L'histoire est effrayante, l'histoire est ténébreuse, l'histoire est horrifiante. Mais il y a la nature, et dans cette nature, quelque chose lui parle d'une force de création, de beauté, qui continue à lui parler jusqu'à l'extrême. Et puis d'autre part, ce travail sur elle-même, sur sa propre intériorité, lui permet de découvrir une chose qui est souvent toujours valable, malheureusement, c'est que les êtres humains ne savent pas souffrir. Ils ne savent pas souffrir, et ne sachant pas souffrir, ils deviennent agressifs, ils deviennent hagards, ils deviennent pleine d'agressivité par rapport à ceux qui leur font du mal, mais souvent les uns envers les autres comme substitut. Et donc, elle essaye aussi de réfléchir à ce que signifie souffrir et de ne pas laisser la souffrance détruire en elle ce qu'elle appelle « mon Dieu » en elle-même.
Alors, sur la haine, vous citez ce texte à la fois magnifique et d'un courage spirituel extrême, eu égard aux conditions qui sont les siennes. Elle dit donc que chacun fasse un retour sur soi-même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres.
Oui, ça c'est une très belle et profonde citation que pour ma part je pense très juste et très profonde. Et là on voit aussi qu'elle a la conscience que cette histoire effrayante qui se déroule, elle a aussi un rapport avec ce qui se passe dans l'intériorité des personnes. Et elle dit à un moment donné, si nous n'apprenons pas après la guerre, elle espère bien sûr vivre, si nous n'apprenons pas justement après la guerre à vivre autrement, ben, ça aurait été pour rien tout cela.
Ah, donc il y a donc à la fois ce journal qu'elle tient, cet approfondissement d'elle-même qu'elle fait, avec le double souci à la fois de repli pour trouver en soi la paix et la clarté, et en même temps une explication, une compréhension du monde tragique, abominable, dans lequel elle vit. Alors, vous dites tout de suite au début, effectivement, cette quête, cette conversion devient progressivement spirituelle et progressivement la figure de Dieu apparaît. Mais vous dites tout de suite que cette figure de Dieu n'est pas religieuse, au sens, elle n'est pas récupérable, disons, par une religion ou par une autre, et qu'il y a une forme de un Dieu sauvage, enfin, ou une conscience du Dieu qui dépasse toutes les affiliations particulières. Alors comment est-ce qu'on peut, de prime abord, définir le Dieu, ce Dieu au fond du puits dont il faut dégager les abords pour... Comment est-ce qu'on peut comprendre le Dieu d'Etiel Soum ?
C'est un Dieu qu'elle découvre au plus profond d'elle-même. L'idée que dans le plus profond de soi habite aussi ce qui est le plus haut, c'est une idée que beaucoup de mystiques et de convertis ont découvert. Saint Augustin le dit aussi dans ses conversions. Et donc, il faut descendre en soi-même pour découvrir ce Dieu qui est souvent recouvert de toutes sortes de sédimentations qui nous font que nous l'oublions et que nous l'ignorons, que nous ne savons même pas qu'il est là. Et ce Dieu, d'abord, elle dit toujours « mon Dieu ». À aucun moment, elle parle de Jésus ou du Christ. Donc, il ne faut pas, comme certains le font, la baptiser a posteriori. Ça ne me semble pas juste.
Et pas plus peut-être que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Bon, non, pas plus, voilà. Je dirais. Bon, mais malgré tout, elle ne cesse de dire « nous les Juifs ». Donc ça, c'est quand même très important. Mais quand elle dit « nous les Juifs », ça ne veut pas dire pour autant qu'elle adhère à la religion juive dans toutes ses données, etc. Donc c'est ce Dieu qu'elle découvre au plus profond d'elle-même, c'est un Dieu auquel elle parle. Donc ça, c'est très important, un Dieu qu'elle prie, un Dieu auquel elle parle. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une idée de la raison, ce n'est pas une idée philosophique. C'est un Dieu auquel elle parle, auquel elle s'adresse, un Dieu dont elle a la plus vive conscience qu'il ne peut pas la sauver, qu'elle est prise dans un engrenage qui semble de plus en plus terrible, et à la fin, elle a conscience que cet engrenage va la conduire au pire. Elle dit « je suis prête même pour cette mort lamentable ». Mais ce Dieu, c'est aussi un Dieu qu'elle veut aider. Ce n'est pas un Dieu qui a la puissance de l'aider elle, comme on voudrait bien quand on est dans une situation de détresse, mais c'est, au fond, c'est elle, en aidant ce Dieu, qui va justement pouvoir continuer à vivre jusqu'au dernier instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aider Dieu ? Il y a un moment, elle dit l'aider à ne pas mourir en moi-même, l'aider à ne pas disparaître complètement en moi-même, puisque ce Dieu qui ne se manifeste pas dans la magnificence des choses, dans cette histoire qui ne vient pas sauver son peuple, Il dit ce Dieu, peut-être la manière de l'aider, c'est de continuer à s'adresser à lui, de le maintenir vivant nous-mêmes, mais aussi d'essayer, et ça me semble très très beau, d'essayer d'en déblayer un peu le chemin chez autrui. Et elle a cette phrase, qui est une phrase qu'on pourrait penser chez d'autres mystiques également, à ce moment-là, Dieu écoute Dieu. C'est-à-dire que chez autrui, il s'agit aussi de, dans la mesure du possible, mais c'est extrêmement difficile, de dégager ce chemin.
Alors vous parlez de la conversion des Télésous, mais vous dites, je vous cite, qu'il s'agit donc de déblayer un peu d'air libre pour Dieu en elle. Et alors, ce qui est extraordinaire, et là, peut-être que vous pouvez nous éclairer sur ce point, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, Dieu n'est pas là pour la protéger, mais c'est elle qui se doit de protéger Dieu, d'une certaine façon, de le préserver des atteintes de l'histoire. Il y a une forme de renversement de l'idée que l'on se fait du Dieu protecteur. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette inversion de la figure, d'une certaine façon, enfin, cette manière de devoir protéger Dieu de l'abomination qui règne dans l'histoire à ce moment-là?
Parce que, en fait, cette idée d'un Dieu puissant, protecteur et qui sauve les gens de la détresse, bon, évidemment, il y a de multiples textes qui en parlent, mais cela lui semble une pensée humaine qui ne donne pas sens à ce qu'elle expérimente, elle. Et donc, elle expérimente à la fois un certain abandon de ce monde, comme le psaume 22 dit « Voilà, nous sommes abandonnés », mais elle ne dit pas cela avec un sentiment de détresse. Elle dit cela avec un sentiment « Mais alors c'est à moi de te sauver en moi-même, c'est à moi de te maintenir vivant ». Elle dit même « Je ne sais pas si j'y réussirai jusqu'au bout, mais c'est à moi de te maintenir vivant ». Donc, maintenir vivant, c'est continuer à parler, c'est continuer à prier ce Dieu, et c'est continuer aussi à s'adresser aux autres, à leur témoigner cet agapé dont nous parlions tout à l'heure, donc cet amour qui peut-être arriver à toucher en eux ce point infime qui est ce point où Dieu est là, malgré tout le désastre du monde.
On a le sentiment, en lisant votre texte, qu'elle a une conscience aiguë de la défiguration. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous le dites, l'idée de l'homme créé à l'image de Dieu est très présente chez elle, et donc elle souhaite à la fois préserver cette image et elle constate en même temps les défigurations, enfin ces visages haineux des soldats et cette souffrance du peuple juif qui est le sien à ce moment précis où effectivement il est en transit vers les camps de la mort. Alors pourquoi est-ce que l'image de Dieu, cette fragilité de l'image de Dieu est si importante pour elle et pourquoi est-ce que ce thème de l'image et de la ressemblance est devenu ou est chez elle, comme elle le dit, le fil conducteur de sa vie?
Elle dit, c'est le fil conducteur de ma vie, justement, de penser l'être humain à l'image de Dieu, donc ce qui est évidemment biblique, et donc lorsque elle voit une personne humaine, donc de se dire, cette personne est l'image de ce Dieu qu'il porte en lui-même. Et donc, si c'est le fil conducteur de sa vie, c'est aussi le fil conducteur, justement, de son comportement avec autrui, ou du moins de ce qu'elle essaye d'être, son comportement avec autrui. Mais dans ce camp de Westerbork, York, lorsqu'elle voit la façon dont les soldats et les policiers se conduisent avec une haine terrible, elle dit à ce moment-là, ce fil conducteur de ma vie souffre une terrible incertitude. Est-ce que ces hommes-là aussi sont à l'image de Dieu ? Donc là, il y a une interrogation qu'elle ne tranche pas. Et donc, mais là, c'est vraiment une pensée biblique. Et donc, elle essaie de tenir jusqu'au bout, mais à un moment donné, c'est terrible parce que être à l'image de Dieu, ça veut dire, au fond, que le lien que nous avons avec le bien est plus fort que le mal, même si le mal défigure, abîme, etc. Et donc, qu'on peut toujours retrouver ce lien. Maintenant, quand elle voit ces policiers haineux, etc., elle se demande, mais est-ce que c'est moi qui m'exprime ça ainsi, mais est-ce que ce lien ne peut pas être rompu ? Est-ce que ce lien ne peut pas être rompu ? Et ça, c'est une interrogation absolument bouleversante.
Vous venez de dire une chose qui est absolument centrale, c'est que effectivement, pour elle, le bien vient avant le mal. Et on a le sentiment que chez elle, il y a le souci d'une absence de contamination. Elle ne veut pas être contaminée par la haine de ces SS qui sont là et qui la détestent ou qui détestent son peuple au point de vouloir les tuer. Et donc, ne pas être contaminée par cette haine de ces Allemands ou cette haine que les Allemands ont pour elle, d'une part. Et deuxièmement, éviter que Dieu, d'une certaine façon, soit contaminé par l'histoire. Donc il y a un souci de se préserver, d'être préservé de cette dégradation de l'image de Dieu et de cette détestation, de cette haine que l'histoire lui renvoie.
Oui, mais vous avez raison, mais ce n'est pas une préservation au sens de quelque chose qui est pour soi, qu'on ne veut pas être abîmé. Cette préservation, c'est aussi, elle se traduit en une œuvre, elle se traduit dans des actes, dans des gestes, dans un amour effectif envers les autres et dans cette décision de vouloir subir le destin de son peuple jusqu'au bout. Mais cette pensée que ce bien est premier par rapport au mal, même si le mal est effrayant, me semble que c'est biblique. La création est d'abord bonne, même si elle est absolument abîmée, altérée, défigurée. Mais la question lancinante, c'est est-ce que ce lien peut être rompu ? C'est ça sa question lorsqu'elle voit les SS ou les policiers néerlandais.
Non, la question que je me posais par rapport à la tradition juive que vous connaissez, c'est que pour Etiel Soum, Dieu parle. Dieu lui parle, elle s'agenouille et vous dites que c'est effectivement une posture, une figure qui n'est pas juive, de s'agenouiller. Voilà. Alors que, effectivement, après la guerre, après la Shoah, va s'imposer progressivement le thème du silence de Dieu, d'un Dieu impuissant. Voilà. Comment est-ce qu'on réconcilie cette double posture, c'est-à-dire à la fois ce Dieu qui parle à Etiel Soum, qu'elle veut préserver, et effectivement, après la guerre, ce thème que va développer Jonas, du silence de Dieu qui, d'une certaine façon, l'a rendu impuissant et lui fait perdre tous les attributs de la puissance.
Raisonner sur un concept en lui donnant des attributs, c'est une chose. Éprouver à l'intérieur de soi une expérience, justement, d'une possibilité de continuer à écouter, de continuer à répondre, c'est une chose que Etiel Soum a vécu jusqu'au bout. Et j'ai lu beaucoup de témoignages, juifs en particulier, et pour cause, qui montrent qu'elle était loin d'être la seule à penser de cette manière-là. Mais cette parole qu'elle écoute, qu'elle essaye d'écouter, et auquel elle essaye de répondre, et c'est surtout ça, c'est une parole auquel elle essaye de répondre, ça ne veut pas dire que c'est une puissance. Ça ne veut pas dire que c'est une puissance qui a la possibilité donc de sauver le peuple du désastre absolu. Alors, le travail de Hans Jonas, il est en effet très intéressant, mais c'est davantage une pensée philosophique sur le concept de Dieu qui survient aux Juifs, tandis que Etiel Soum et d'autres témoignages que j'ai pu lire, c'est pas un concept, c'est la vie de Dieu en nous.
Je la cite, hein, elle dit donc, grâce à la prière, « Je retrouvais le contact avec moi-même, avec ce qu'il y a de plus profond et de meilleur en moi, et que j'appelle Dieu. » Enfin, la question, quand on lit effectivement « Une vie bouleversée », donc que je recommande à tous nos auditeurs, c'est de savoir, est-ce que Dieu, pour elle, est extérieur à elle, est aussi extérieur à elle, elle le retrouve au fond d'elle-même, ou est-ce que d'une certaine façon, cette clairière de bonté qu'elle dégage au fond d'elle-même, elle le nomme Dieu ? Vous voyez, est-ce que c'est quelque chose qui est d'elle, qui reste en elle, comme une couche la plus profonde de son être, ou est-ce qu'il y a un lien avec un Dieu extérieur à elle ?
Oui, parce que justement, ce Dieu qui est au plus profond de soi, qui est ce point, ce Dieu qui est au plus profond de soi, il est aussi le plus haut. Donc, c'est, pour le dire en termes philosophiques, c'est une transcendance, mais dans l'immanence de la vie, où c'est l'infini, dans notre, au cœur de notre finitude. Et donc, elle ne parle pas seulement à elle-même, elle parle à ce Dieu qui la dépasse et qui est en même temps le plus intime d'elle-même. Il y a, je crois, ces deux dimensions. Donc, ce Dieu n'est pas simplement un Dieu transcendant, extérieur, infini et lointain, il est aussi au plus intime de soi et en particulier peut-être surtout dans ces moments où il semble avoir totalement déserté l'histoire et donc ne pas être là. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment aussi un Dieu qui est le Dieu vivant des Juifs et des chrétiens.
Et vous faites donc dans votre texte de et Tilsum une figure de la résistance spirituelle. C'est-à-dire qu'effectivement, elle réussit dans ce contexte qui est la sienne, d'être en résistance à l'égard de cette haine, de ce destin, de ce peuple broyé qui effectivement s'en va progressivement vers les camps de la mort.
Oui, ça me semble très important parce que souvent on insiste, et à juste titre, sur la résistance armée, par exemple la révolte du ghetto de Varsovie, et bien sûr c'est tout à fait admirable, mais il y a aussi une autre résistance, c'est-à-dire résistance spirituelle, c'est-à-dire ne pas laisser cette haine dévastatrice réussir à vous détruire à l'intérieur. Et là, c'est aussi une résistance extrêmement profonde. Il y a des témoignages aussi, d'ailleurs, dans les camps, dans les ghettos, de gens qui ont essayé jusqu'au bout, justement, de résister spirituellement en étudiant la Bible, en essayant de maintenir autour de soi une vie religieuse. C'est aussi une forme de résistance à la haine, parce que la haine vise à détruire, point final.
Alors, je renvoie donc nos auditeurs à ce très beau livre donc, que vous venez de publier, qui s'appelle donc, Le désir de conversion, qui est paru au Seuil, où vous étudiez effectivement la conversion telle que nous l'avons vue de Etty Hillesum, la conversion aussi, ou les différentes conversions d'Henri Bergson, ce que nous avons vu dans une précédente émission, puis d'autres figures aussi, d'une part. Et puis je renvoie aussi nos auditeurs, donc paru en poche, au journal donc, d'Etty Hillesum, qui s'appelle Une vie bouleversé, donc qui effectivement me semble-t-il un livre absolument et un journal absolument exceptionnel quant à cette quête progressive, cette découverte d'elle-même et cette capacité à pouvoir, comme vous le disiez à la fin de notre entretien, de résister, de préserver en elle-même cet espace de bonté qui n'est pas atteint par la détestation, par la haine, par les circonstances et donc cette figure vraiment d'insurrection spirituelle qui est la sienne. Catherine Chellier, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous.
Merci à vous.
C'est moi.